Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une grande soirée de rugby. Oui, hier c'était déjà du rugby et je vais devenir une spécialiste rugby dans quelques semaines. Fin de la première journée de Top 14 ce soir, Clermont reçoit le triple champion de France en titre Toulouse. C'est un choc, on va se régaler. Il est à mes côtés, notre membre de la Dream Team RMC Rugby, Yann Delec. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Tout va bien ?
Ouais, super.
Franchement, cette première journée de Top 14 a déjà tenu toutes ses promesses. On s'est régalé.
On s'est régalé. Il y a déjà eu des surprises, des matchs gagnés à l'extérieur. On va en parler, mais effectivement, c'était déjà une très bonne première journée. Et puis, on finit en apothéose avec Clermont qui reçoit Toulouse. Ça va être magique.
Effectivement, on finit en apothéose avec le triple champion de France qui se déplace à Clermont. Au programme également, Didier Deschamps qui a répondu suite aux polémiques. Vous le savez, il y a eu les blessures de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé. Il a parlé, évidemment, parce qu'il y a des tensions entre le PSG et la sélection nationale. On parlera également de Kimpembe, le titi parisien qui dit adieu à son club de toujours. Il part au Qatar. On sait que malheureusement, depuis de longues années, il était en incapacité de faire son métier, hein, tout simplement, parce qu'il a eu de nombreuses blessures. Et on y reviendra parce que c'est une page de l'histoire du PSG également qui se tourne. Allez, tout de suite, je te propose, Yann, de partir à Clermont. On va retrouver notre duo de folie, Wilfried Templier et Damien Tardieu. Bonsoir, messieurs.
Salut.
Duo de folie.
Salut, Karine.
Et bienvenue au pied des volcans.
Merci beaucoup. J'adore Clermont. Alors, je connais plus Clermont pour Gabriel Montpied, le stade de foot. Mais je sais qu'évidemment, c'est une forteresse, c'est une cathédrale.
Qu'est-ce que t'aimes à Clermont ? La truffade ?
Ah oui, évidemment. Bah oui. En plus, moi, je suis très gourmand. Donc, la truffade, j'adore. Et puis, les gens sont très sympas. Parce que même si c'est pas une ville de foot à la base, quand j'y allais pour le foot, ils étaient toujours très agréables. On mange très bien. Et on y joue très bien également au rugby. Donc, tout est réuni pour cette grande soirée. Alors, messieurs, on l'a dit, hein, c'est un choc. Parce que ce soir, Clermont reçoit tout simplement le triple champion de France en titre. On va se régaler. Sur le papier, c'est une affiche alléchante.
Ah oui, parce que bah, c'est Clermont, Yann, tu le sais, a eu du mal ces dernières années. Damien, tu l'as vécu aussi. Clermont, c'est une place forte du rugby français, mais ces derniers temps, ça n'a pas toujours été facile. Mais petit à petit, 8e, 5e, ça revient un peu dans le game, comme disent les jeunes. Et Toulouse, j'y vais fort. Et Toulouse, voilà, triple champion de France en titre. Donc, quoi qu'il arrive, on parle de volcan, c'est chaudron ici, ah, oui. Michelin, Damien. Voilà, ça reste Michelin et c'est particulier.
Ça va être plein, 19 000 personnes, guichet quasiment enfin fermé d'ailleurs. Il restait quelques places de ci, de là, mais elles sont vite parties. Tout à l'heure, en arrivant au stade, vous savez, ici, 2 heures avant le coup d'envoi du match, on ouvre les portes pour ceux qui sont en pesage, donc qui n'ont pas de place attitrée, qui sont au bord du terrain. Et Christophe Furios, lors de sa première conférence de presse, avait dit « Moi, ce qui me marque, Clermont, c'est ces gens qui courent pour avoir la meilleure place au bord du terrain en pesage. » Et bien là, j'en ai vu, ils ont tapé des sprints énormes pour être au premier rang parce que c'est la première journée, c'est le Michelin. Il fait beau, Wilfried.
Ah, il fait chaud.
Il fait
même lourd, c'est orageux.
Et Clermont-Toulouse, c'est une affiche qui, certes, avec les performances de Clermont, avait un peu jauni, sans mauvais jeu de mots, ces dernières années, mais c'est une vraie affiche et on sent qu'il y a une atmosphère particulière.
Ouais, Clermont, effectivement, qui monte en puissance aussi d'année en année, hein, parce qu'effectivement, tu l'as dit, Wilfried, mais 5e l'année dernière, ça veut dire qu'ils ont quand même joué le barrage. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est qualifié dans ces 6 dernières équipes les meilleures. Donc ça, c'est aussi révélateur. Et puis, pour ce soir, il y a aussi un Clermont new look quelque part, parce qu'ils ont régénéré un peu les troupes aussi. Il y a des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Toulouse, c'est plutôt dans la continuité de ce qui se fait depuis pas mal d'années. Donc là aussi, peut-être un nouveau style à Clermont qu'on va voir ce soir.
On a hâte en tout cas de voir cette affiche, messieurs. On le rappelle, c'est la dernière affiche de cette première journée de Top 14. Ouais. On rentrera dans les détails de ce choc entre Clermont et Toulouse, mais je vous propose également de faire un petit bilan déjà, parce que tu l'as dit, Yann, cette première journée a été riche en enseignements. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être commencer déjà sur Bordeaux-Bègles. On le savait, c'est un club qui est très ambitieux. Et hier, ils ont tenu leur rang face à La Rochelle. C'était un bon match. Bordeaux était favori. Ils ont eu quelques difficultés, mais au final, à l'expérience, ils ont été beaucoup plus efficaces.
Ah, tu parles à Yann ou à nous ?
Ah ben, à tout le monde.
À vous trois,
Je prends la main. Non, effectivement,
c'est
un match très engagé hier, effectivement. Un match très attendu par tout le monde du rugby. et qui a tenu ses promesses, puisque effectivement les Bordelais, qui ont été mis en difficulté physiquement notamment en début de match par La Rochelle, a réussi finalement à se maintenir et à marquer sur leur temps fort, ce que n'a pas réussi La Rochelle, qui a été dominant pendant une bonne partie du match mais qui n'a pas scoré sur leur temps fort. Donc ça a été la difficulté de Rochelaise du soir, et l'UBB, ben ouais, fidèle à ce qu'ils nous ont montré l'année dernière, c'est-à-dire dans la continuité, une équipe encore solide sur ses bases malgré quelques absences qui sont très importantes, je pense notamment à Lucu à la mêlée. Donc voilà, ils ont tenu leur rang, ils ont gagné ce premier match. C'était un match attendu pour eux parce que La Rochelle avait fait une très grosse préparation physique.
Au contraire de l'UBB.
Ah, ils avaient commencé, commencé plus tard, Yann, les Bordelais. Quoi,
c'est pour ça.
Presque un mois d'écart entre les deux équipes, et c'est vrai qu'il y avait l'inquiétude du côté de l'UBB, une préparation express. On a envie de dire, Yann, sur deux coups d'éclat en fait, hein, ouais, ils se gagnent le match, hein, parce que je me rappelle qu'à 15-8 il y a Botia qui, dans les 22 mètres tout bordelais, qui vient une chistera et qui perd le ballon, et derrière il y a l'essai de Pagerello, il y a eu aussi le coup de pied rasant de Jalibert pour l'essai de Bielbiaré. Voilà, quand il y a des très bons joueurs, ça aide aussi à gagner des matchs, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, Bordeaux fait le boulot, même si je pense qu'il de laisser un petit point de bonus défensif à La Rochelle, ça, ils ont moins aimé à la fin, mais ils ont peut-être signé pour une victoire comme ça avec une préparation express.
Ouais, le point de boost était mérité pour La Rochelle quand même, hein, sur le match.
La Rochelle donc
qui
monsieur s'incline, mais on peut parler un petit peu de défaite encourageante. Ils n'ont pas été efficaces, mais en tout cas il y a du mieux par rapport à la saison passée où ça avait été la cata.
Bah, pas qualifié dans les 6. C'est vrai que La Rochelle a une grande réflexion dans l'été, à vouloir étoffer son jeu, à mettre plus de jeunes. Voilà, avec l'arrivée de Nolan Le Garay, qui doit changer le visage de cette équipe et pas tout faire à lui tout seul. Mais c'est vrai qu'Yann, tu l'as dit, c'est mérité parce qu'ils ont eu 20 minutes de domination dans le début du match, ils n'ont pas scoré. Et d'être revenu de 23-8 à 23-18 pour aller chercher le bonus défensif, c'est peut-être pas si mal dans les confrontations directes, on en reparlera. Et puis d'aller chercher ce point de bonus, c'est pas volé, on a envie de dire, pour La Rochelle. Donc peut-être que tout le monde est content hier soir entre l'UBB et le Stade Rochelais.
Parce que malheureusement, effectivement, ils n'ont pas concrétisé leur temps fort. Au contraire, justement, de l'UBB. On va écouter messieurs Thibaut Giroud, c'est le directeur de la performance de l'UBB, après donc ce succès.
La Rochelle, c'est une équipe qui nous fait du mal depuis quelques temps sur le combat. On a répondu présent, c'était pas un grand match de rugby. Je pense qu'on a fait un peu la différence entre le retour de mi-temps jusqu'à la 50e. Et puis après, ça a été un petit peu brouillon. On a joué à 13, à 14, c'était un peu compliqué. On leur laisse le point de bonus, mais bon, on prend 4 points, c'est le plus important pour nous.
On rappelle donc l'UBB qui s'est imposé 23 à 18 face à La Rochelle. Messieurs, un enseignement également lors de cette première journée. On rappelle qu'il y a encore un match, c'est Clermont-Toulouse. C'est 3 victoires à l'extérieur et l'une des grosses performances, c'est Toulon qui a battu Montpellier 27-17, Wilfried.
Ouais, Toulon a frappé fort quand même, hein, 24 à 3 à la mi-temps, en plus finalement d'une saison à l'autre, bah il y a des bases qui sont là, hein, les Toulonnais étaient demi-finalistes, ils ont perdu contre l'UBB l'année dernière, et on disait Montpellier avec du renouveau, avec plus de muscles encore, mais gagner à Montpellier de cette façon 27-17, je le rappelle, 24-3 à la mi-temps, c'est fort, 3 victoires à l'extérieur déjà, c'est pas rien, mais celle-ci elle compte. On peut écouter avant d'en reparler avec Damien et Yann la satisfaction de Pierre Mignoni.
En temps de la victoire, les garçons ont fait un bon match. C'était pas un grand match, mais un bon match. Et voilà, ce soir, on se paye pour le premier match ici. On savait que ça allait pas être simple. Ils étaient très en forme sur les matchs de préparation qu'ils ont fait. Et voilà, on savait que ça allait être costaud. Mais on a échappé un peu à la remontada, qui m'a certainement pas très plu sur la deuxième mi-temps, mais pour des raisons. Donc voilà. Mais sinon, c'est bien.
Voilà, satisfait, ouais. Toujours mesuré, Yann, Pierre Mignoni. Hein,
ouais, c'est normal.
Des choses à redire quand on est coach.
Non, mais première journée, c'est normal aussi qu'on s'enflamme pas, même si c'est une très belle performance. Mais ce qu'il faut noter côté Toulonnais, je trouve, dans leur progression, c'est le rendu de leur recrue. C'est-à-dire, leur troisième Mercer a fait un très grand match. Et Brett au centre, l'Italien, a fait un énorme match aussi. Ça veut dire que les joueurs qu'ils ont choisis en recrue aujourd'hui, on peut se dire sur ce premier match que c'est des vrais bons choix. Donc on va voir dans l'avenir, mais pour l'instant, en tous les cas, c'est une très belle performance de ces 2-3 joueurs là qui viennent d'arriver.
Vous êtes sur RMC, vous savez, on passe en revue les résultats de la première journée de Top 14. On parlait des victoires à l'extérieur. Il y a Pau également qui s'impose à Castres. Yann, démarrage idéal pour la section paloise. Et dans le même temps, Castres a pris un gros coup sur la tête là. Cette claque à la maison, elle fait mal.
Ouais, c'est vrai. Alors, Pau pas ultra dominant sur ce match. Les Castrais ont plus porté le ballon que les Palois, mais ils n'ont pas su concrétiser eux non plus. Ils n'ont pas marqué sur leur temps fort. À l'inverse, les Palois, ils ont fait carton plein. Alors, les Palois, on les connaît. L'année dernière, ils étaient en grosse difficulté en début de saison parce qu'ils avaient énormément de blessés, mais ils avaient très bien recruté. Je trouve qu'ils ont encore très bien recruté cette année. Là, par contre, ils sont quasiment au complet. Et encore, il manquait quelques jeunes joueurs. On connaît Gaëtan Assiglobé aussi. Donc, ouais, quelques joueurs qui manquaient aussi, mais malgré tout, ils ont fait une belle performance. Et puis voilà, c'est une équipe qui arrive en confiance. Et attention à Pau, je ne suis pas sûr que tout le monde les attend à ce niveau-là. Mais à mon avis, ils sont partis pour faire une belle saison.
Ouais, et puis ils étaient attendus justement devant. Ils étaient critiqués l'année dernière un peu sur leur conquête, sur leur mêlée. Ils ont été très forts là-dessus. Et Sébastien Piccheroni, le manager, ils étaient vraiment satisfaits de ça. Il a dit hier après le match à Castres, on sent une équipe forte et ça me réjouit. Une équipe forte sur la conquête. Bon, il reste 25 journées,
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais sans les joueurs que tu as cités, sans Facundo Issa, sans Juan Pablo Montoya, ils sont venus gagner à Castres. Castres l'année dernière, c'est une seule défaite à domicile face à l'UBB. Et d'aller gagner là-bas, c'est jamais facile.
Ouais, ça a fait mal hein, cette défaite à domicile. Ils ont beaucoup insisté là-dessus parce que tu le disais l'an dernier, c'était très bon à domicile. Et même leur dernière défaite à domicile en première journée, je rappelle, ça datait de la saison 2021-2022. Il y a également un score marquant, c'est Bayonne 26-19 sur la pelouse de Perpignan. Wilfried et Damien, c'est l'un des enseignements de cette journée. Il fallait jouer à l'extérieur en fait, voilà.
Bah, on s'inquiétait un petit peu pour Bayonne, Yann, parce que alors qu'il y a de la pluie qui tombe sur le stade Marcel Michelin,
effectivement,
ça jouera pour Tanner.
Temps lourd et ça explose, c'est ça?
Ah ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ça
alors, c'est pas de l'orage, mais ouais, on n'entend pas gronder le tonnerre. Mais...
Voilà. Pour revenir sur Bayonne, Yann, évidemment qu'il y avait des inquiétudes avec les soubresauts qu'il y a eu à l'intersaison, l'arrivée de Laurent Travers en directeur du rugby. Voilà, Grégory Patate qui n'avait pas prolongé encore, qui l'a fait après, mais on sait qu'il y a des tiraillements. Est-ce que ça pouvait jouer sur l'équipe? Gagner Aimé Giral de cette façon, je parlais de Bordeaux, bon, Bayonne n'est pas au niveau de Bordeaux, mais dans les gros bras du championnat, Bayonne d'aller gagner à l'USAP, c'est aussi un signe fort pour les Basques.
Bah ouais, c'est une continuité par rapport à l'année dernière. Quand on fait une bonne saison comme ça sur une année, on a toujours le contre-coup l'année d'après. On se dit, est-ce qu'on va rester sur ce même niveau-là et sur les mêmes ambitions, ou est-ce que c'est juste un effet soufflé et puis ça va retomber? Ben non, Bayonne, dès la première journée, ils nous ont fait voir qu'ils sont là encore cette année, bien là. Moi, je les ai trouvés très solides dans leur jeu parce qu'effectivement, ils ont gagné, mais pas que. Je trouve qu'ils ont traversé.
Vous voyez la différence, Yann, je trouvais quand je voyais
oui,
la
ils
différence
ont traversé
entre les deux équipes, hein, de solidité. Hein.
Ouais, ils ont traversé plusieurs fois la défense catalane et sincèrement c'est une victoire largement méritée, donc il faudra vraiment compter sur Bayonne cette année qui s'est encore renforcé en plus au niveau du recrutement aussi, donc effectivement il faut compter sur eux et attention aux Catalans qui ont quand même mal démarré parce que eux je les ai sentis un petit peu en dedans par contre.
Deux cartons également lors de cette première journée. On va parler du Loup qui cartonne face au Racing 92-32-7. Le Loup donc sans trembler avec le bonus offensif. Du côté du Racing, c'est quoi? Trop d'indiscipline?
Ouais, alors décevant effectivement ce Racing-là, surtout qu'on le voyait un peu beau, c'est-à-dire que il y a une nouvelle politique au Racing de faire jouer des jeunes, de faire jouer plus de joueurs français issus de la formation en tous les cas, et ça a fait un peu pchit finalement sur cette première journée, c'était pas génial. Alors effectivement, ils ont aussi des joueurs à des postes importants, notamment la charnière, qui sont assez jeunes, très peu expérimentés, mais enfin ils ont aussi des joueurs à côté qui ont de la bouteille. Le Racing a clairement été dominé, a loupé son match, contrairement au Loup qui a été très présent, très agressif, très constant sur la partie, un petit peu sur ce que nous ont montré l'année dernière, avant les derniers matchs où ils se sont un petit peu effondrés, mais ils avaient eu une période, le Loup, ils avaient été très bons l'année dernière, et j'ai vu ce Loup-là hier soir.
Wilfried, ouais, Damien, le Loup, ouais, pardon, ouais, le pardon, Loup qui réussit son entame de saison, et dans le même temps, on est déjà inquiet pour le Racing, parce qu'ils ont perdu, et le week-end prochain, il faut qu'ils rebondissent face à l'UBB, donc ça ne sera pas facile.
Bah, c'est l'ampleur du score, Damien, qui interpelle un peu hein, sur ce Racing-là, qui pour la première fois l'année dernière d'histoire de son histoire en top 14 n'était pas qualifié dans les six premiers. Et c'est vrai que Patrice Culazo veut revenir à un plus de collectif, moins de stars. Mais avec un Lyon 11e l'année dernière, qui pareil sur la ligne de départ, on les met pas dans les favoris pour les 6, comme ça sur le papier. C'est, Damien, c'est l'ampleur du score quand même qui interpelle.
Ouais, 32-7 d'entrée, avec les changements dont on a parlé. Effectivement, c'est quand même une contre-performance, on peut le dire ouais, clairement comme ça. Pour cette équipe du Racing, franchement, moi j'ai du mal à les situer, ces deux équipes-là. Le Racing, je sais. voilà, on sait jamais trop. Le Loup, l'année dernière, Yann le disait, ça a fait un peu le yo-yo. Il y a eu des difficultés. Ils sont revenus comme des balles. On a cru qu'ils allaient, y compris rentrer dans les quatre. Et puis finalement, ça s'écroule sur la fin. Donc c'est vrai que c'est quand même surprenant l'ampleur du score pour deux équipes qui, a priori, boxent à peu près dans la même catégorie.
Exact. Quoi,
je pense qu'on peut le dire comme ça.
Et on va écouter Monsieur Guézal après donc ce succès 32-7 pour le Loup.
Ça fait 55 jours qu'on travaille depuis la reprise pour préparer ce match-là, avec bien entendu ce qui va arriver ensuite, mais c'est jamais évident de démarrer à la maison, même si on est très content de retrouver notre public, nos supporters, comme je l'ai dit, pour qui on joue, nos bénévoles, nos administratifs qui sont ici présents, qui travaillent. Et donc voilà, très content de commencer chez nous. On avait déjà fait un petit galop d'essai la semaine dernière, un match de préparation avec la rentrée du Loup. Et donc on est content de pouvoir offrir à notre public un match de qualité, avec bien entendu des choses à revoir. Mais sur l'engagement, sur l'état d'esprit, je crois que les joueurs n'ont rien lâché et c'est le plus important à ce moment-là de la saison.
Ce qui est dingue, c'est qu'en plus on était resté sur un dernier match, c'était Lyon Racing, c'était la dernière affiche hein, à Lyon et, ouais. Et Lyon on avait pris plus de 40 à domicile. Donc voilà. Comme disait Damien, Yann, c'est des équipes qu'on ne sait pas trop situer encore. Je le dis, le championnat va être long, c'est important de le préciser, mais Lyon, sur le papier, peut faire quelque chose. Voilà, c'est une histoire de flamme, d'âme d'équipe. On ne sait pas trop, en fait, Yann.
Oui, effectivement, on ne sait pas trop comment situer ces équipes-là. Mais comme d'autres, hein, on va certainement en parler après, mais le Stade français qui a fait une belle performance hier, on ne sait pas non plus comment les situer véritablement. Quoi. Donc, il y a quelques équipes comme ça. Les Palois, c'est un peu pareil. Les Castrés aussi. Donc, voilà, c'est qu'une première journée, quelque part. Il y en a 25, tu l'as dit. Il y en a 25 derrière. Donc, on va voir tout ça.
Et cette première journée va se clôturer, on l'a dit, avec Clermont-Toulouse qui est à suivre en intégralité sur RMC. Un mot sur le match que tu évoquais il y a quelques secondes, Yann. C'est donc le Stade français qui a mis une sacrée déculottée aux pauvres joueurs de Montauban, promus en top 14. Alors, le Stade français est seulement 12e la saison passée. C'est une victoire bonifiée au final hier soir. Mais pour toi, évidemment, on ne peut pas vraiment donner de valeur à cette victoire parce qu'en face, il y avait un promu qui a fait beaucoup d'erreurs, qui doit apprendre aussi.
Ouais, exactement. Pas de valeur absolue. Par contre, ce qu'on peut quand même noter, c'est que le Stade français a bien récité son rugby, a été présent dans le combat, a fait un grand match de rugby malgré tout. Même si Montauban, on ne sait pas trop ce que ça vaut et on va le voir au fur et à mesure des semaines, mais je pense qu'ils vont être en grande difficulté malgré tout. Mais après, c'est des matchs toujours pièges, surtout en début de saison, quand on prend des promus, comme ça, c'est toujours. Il faut bien prendre ces matchs, il faut les prendre dans le bon sens, et c'est ce qu'a fait le Stade français. Sincèrement, ils ont resté un très beau rugby. Il y a eu quelques joueurs qui étaient en dedans l'année dernière, je pense notamment à Carbonel, qui a fait un très bon match hier. Donc, si le Stade français peut se remettre en confiance grâce à ce match-là, n'oublions pas qu'il y a deux ans, c'était quasiment le même effectif et ils avaient terminé deuxième de la phase régulière. Du championnat. Donc, c'est difficile à dire dans ce rugby-là où toutes les équipes sont tellement proches.
47-24, Wilfried et Damien, le score est quand même rude hein, pour le petit promu, c'est une fessée.
Oui, c'est une fessée, surtout que Yann l'a dit, il se déplaçait chez Stade Français qui avait fait une année pas catastrophique mais pas loin l'année dernière. Donc on se disait quelle pression. Montauban avait zéro pression, au contraire du Stade Français, de recevoir ce petit poussé-là. Si Stade Français gagne, on dit c'est normal. Si Montauban gagnait, c'était cataclysmique. Et c'est vrai que le score interpelle quand même, parce que même si le Stade Français a certainement des qualités, il n'est pas parmi les gros bras. Enfin, Yann, tu as il y a deux ans qui est demi-finaliste, mais on ne le place pas avec Bordeaux, avec Toulouse, voire avec La Rochelle. Et 47-24, c'est difficile, c'est que la première journée, mais Montauban recevra Lyon, il me semble, la semaine prochaine.
C'est ça.
Et là, il faudra déjà pas se louper, parce qu'on peut penser que ça peut être très très long pendant des semaines.
Karine, tu disais qu'il faut qu'ils apprennent, mais il va falloir qu'ils apprennent
très vite. On n'a pas le
temps d'apprendre en top 14, sinon ça va être compliqué. Mais voilà, c'est vrai que pour Montauban, pour les avoir vus jouer la saison dernière, en fin de saison, un match à Aurillac sur la dernière journée de Pro D2, effectivement, qu'ils se retrouvent là, c'est juste exceptionnel. Donc on va voir. Mais il ne faudra pas qu'ils tardent à apprendre de leurs erreurs.
Il va falloir qu'ils apprennent. On écoute, je vous propose le manager de Montauban, Sébastien Thiousbord, après donc cette défaite.
Mitigé parce que je pense qu'on a mis des ingrédients et qu'on a fait de belles choses, mais sur des choses très simples, sur des détails, sur des sorties de camp, sur des ballons 50-50, on s'est fait punir très fort. Quand je parle des choses simples où on a failli aujourd'hui, c'est des choses où je pense qu'on a été meilleur en fin de saison dernière pour être champion. Mais voilà, il faut qu'on vite on se mette au haut niveau, et le haut niveau c'est les détails. Si on est abattu au bout de la J1, ça va être chaud les gars. Il y a du temps, mais il faut aussi vite prendre des points.
Bon messieurs, il est évidemment pas abattu, heureusement on est à la première journée, mais ouais. Il reconnaît quand même qu'il y a vraiment beaucoup de boulot.
Il y a énormément de boulot et encore, il n'a pas parlé de la partie physique. Et ça, ça va être difficile aussi parce que sincèrement, la Pro D2 par rapport au Top 14, la grosse différence, c'est le rythme. C'est déjà la difficulté tous les week-ends et puis surtout la vitesse de jeu, la constante sur 80 minutes. Ça, les Montalbanais ne sont pas trop habitués. Et puis la profondeur de banc non plus, ils n'ont pas un effectif hyper riche, ni en nombre, ni en qualité. Et on sait aussi que les matchs, souvent, se jouent dans les deuxièmes mi-temps quand les équipes commencent à fatiguer avec le banc. Et là aussi, ils vont certainement être en difficulté.
Courage.
Ouais, courage.
Voilà. Messieurs, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes. On le sait, l'ambiance monte au stade Marcel Michelin. Nous allons vivre le dernier choc de cette première journée de Top 14 Clermont-Toulouse avec Wilfried Templier et Damien Tardieu. Dans quelques instants, supporters du PSG, on vous attend. Didier Deschamps s'est justifié après les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Puis on parlera de comment s'appelle-t-il ? Kimpembe, j'allais dire, Kylian Mbappé, on en parle tellement tout le temps. De Kimpembe, le Titi parisien qui quitte son club de toujours. On vous attend au 32-16. On est sur RMC, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à 23h avec Yann Colleg parce que vous le savez, il y a un choc ce soir de Top 14 pour clôturer cette première journée Clermont-Toulouse. Mais on va évidemment revenir sur l'actualité de l'équipe de France. Nous sommes à J-2 avant France-Islande qui se jouera au Parc des Princes. Et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, est revenu sur la polémique des blessures de Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. On rappelle que pour Ousmane Dembélé, on parle de minimum 6 semaines, lésion sévère de l'ischio-jambier droit. Et pour Désiré Doué, on parle de 4 semaines d'arrêt. Lésion au mollet droit. Didier Deschamps était ce matin chez nos confrères de Téléfoot sur TF1. Il a été interrogé. On l'écoute.
Évidemment qu'on a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons les informations aussi, parce qu'il y a certains clubs qui les donnent plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux, de professionnalisme. Je la comprends, à leur place, si j'étais en club, j'aurais le même ressenti. Je suis pas là pour prendre des risques. À partir du moment où il y a des joueurs qui sont sur le terrain, le risque zéro, il n'existe pas. J'ai Ryan Cherki et William Saliba qui sont blessés, c'est acté, qui pourront pas. Je les fais pas venir. Je prends l'exemple dernier avec Désiré qui me demande de sortir, mais après en discutant avec lui, je sais très bien que l'envie de jouer prend le pas sur beaucoup de choses. Mais il ressent au bout de 20 minutes, si au bout de 20 minutes, j'ai dit, Dez, au bout de 20 minutes, tu me dis, je le change.
Okay.
Je le change.
Le PSG a communiqué également ce dimanche, le club parisien appelle à la mise en place d'un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre club et sélection nationale. Le PSG a écrit à la Fédération française de football et il demande clairement plus de transparence et de collaboration. Et il dit également dans ce communiqué, les faits récemment survenus graves et évitables doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates. Donc on sent évidemment que le PSG est extrêmement énervé suite à la blessure de ses joueurs. Et dans la lettre qui avait été adressée à la 3F, il parlait également des blessures passé de Barcola et aussi de Zahir Emery. Et puis du côté de l'UNFP, on a réagi contre le calendrier infernal. Ils ont notamment dit les joueurs tombent comme gravelotte. Yann, un petit mot, il y a beaucoup de supporters parisiens qui sont évidemment énervés. Est-ce que c'est qu'on joue trop ? Est-ce que c'est qu'on ne prend pas assez en compte le fait que, vu que les saisons sont très denses, y a des joueurs que tu dois mettre au frais en début de saison parce que ce sont pas des matchs majeurs. Là, je pense par exemple à Ousmane Dembélé, aujourd'hui PSG qui ont une saison à rallonge. On rappelle qu'elle s'est terminée le 13 juillet avec la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ou est-ce que finalement, globalement, c'est pas de chance. Dembélé, on nous dit que c'est pas la même cuisse et Désiré Doué n'était pas blessé et il se blesse lors de la première période du match.
J'ai envie de dire c'est un petit peu tout ça, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup trop de matchs. En fait, quand tu vas au bout de chaque compétition, ce qui a été le cas pour le PSG, pour Dembélé, pour Désiré Doué également, effectivement, tu tires sur la corde, il n'y a pas beaucoup de roulement au foot. Hein, souvent, c'est les mêmes qui jouent quand même. Après, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Même si c'est un match amical, à un moment donné, on joue pour son pays.
Là, c'était qualificatif pour la Coupe du Monde, mais l'adversité n'était pas très relevée, c'était l'Ukraine.
Ouais, voilà. Mais c'est l'équipe de France, quoi. C'est quand même le Graal, le numéro un. On ne peut pas dire on laisse un joueur au repos pour un match de l'équipe de France. C'est pas possible. Donc, non, après, c'est la gestion des corps et des hommes, effectivement, être très à l'écoute des sportifs. Mais comme on le dit, c'est aussi la faute à pas de chance, parce que visiblement, ils n'avaient pas d'alerte avant sur les blessures qu'ils ont eues cette fois-ci. Donc, voilà, je pense que c'est un mélange de tout ça, mais évidemment que les joueurs jouent énormément et beaucoup trop, je pense.
Il y a beaucoup de matchs et le PSG a vraiment l'impression de ne pas avoir été entendu, notamment sur Ousmane Dembélé, parce qu'il ne voulait pas qu'il soit utilisé suite à sa blessure contre Toulouse. Luc, supporter du PSG, est avec nous. Bonsoir, Luc.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Luc, quel est ton sentiment par rapport à ce qui se passe? Parce qu'on voit que le PSG est en train de se tendre. Il y a évidemment beaucoup de joueurs du PSG qui sont internationaux. Alors, internationaux français, mais il y a aussi d'autres sélections. On a vu le Maroc, on a vu le Portugal. Hier, les Portugais ont notamment joué avec leur sélection. Est-ce que pour toi, la Fédération française de football est fautive ou c'est vraiment un peu de pas de chance et le fait aussi qu'on rappelle qu'Ousmane Dembélé est à la base un joueur fragile?
Pour commencer, la Fédération française est fautive, déjà, c'est clair et net. Et au bout d'un moment, il faut se mettre à la place du PSG. Et là, je parle juste au nom du PSG, je parle pas en tant que supporter.
Mais t'es supporter du PSG quand même, donc ouais. tu as évidemment une appétence pour ce club.
Oui, mais là, je fais abstraction, en fait, de mon supporterisme, en fait, pour justement me prononcer sur la situation, parce que même si j'étais pas supporter du PSG, j'aurais eu le même raisonnement. En fait, il faut voir, et on l'a tous vu, à quel point en fait la préparation au PSG, elle est méticuleuse. Et à quel point la gestion en fait du temps de jeu des joueurs et des blessures et des formes de chaque joueur est prise en compte depuis la saison dernière. La preuve, la saison dernière, c'est très bien passé et tous nos meilleurs joueurs étaient là au moment où il fallait.
Tout à fait.
Nous, on fait toujours très attention. Et le fait que ça arrive, le fait que ce qui s'est passé arrive, c'est-à-dire qu'on ait deux joueurs à nous qui se blessent, sachant que le PSG avait envoyé un avertissement à la Fédération française, enfin à l'équipe de France, c'est rageant parce que automatiquement on se dit, ils n'ont pas fait attention ils n'ont pas pris en compte en fait nos demandes et ils n'ont pas pris autant soin que nous on prend soin des joueurs.
Alors attends, je te coupe un instant parce que le Dembélé, il a joué le dernier match avec le PSG ou pas?
Oui, contre Toulouse oui. Et il se blesse.
Ah, on est d'accord.
Je
connaissais la réponse, ouais.
Gauche.
Mais si vraiment ils font attention à leurs joueurs, peut-être qu'il fallait lever le pied, pas faire jouer Dembélé contre Toulouse. Donc moi, je veux bien que tu remettes la responsabilité sur la fédération. Mais à un moment donné, si tu gères bien tes joueurs, peut-être que Dembélé, il fallait pas le faire jouer à Toulouse, sachant qu'il y avait une chance internationale 8 jours après.
Bah alors moi aussi, enfin moi je peux répondre à ça.
Ouais, bien sûr.
Moi je peux vous assurer à coup quasi sûr que si Dembélé avait joué avec le Paris Saint-Germain et pas en équipe de France, il se serait pas blessé. Et Désiré Doué, pareil. Parce qu'on connaît les joueurs de façon parfaite et on sait comment.
Attends,
les gérer.
Luc, je comprends pas ta position sur Dembélé. Dembélé s'est blessé avec le PSG. C'était lors de la troisième journée contre Toulouse.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, nous, on voit les matchs. D'accord?
Didier Deschamps aussi, le staff médical aussi, j'espère.
Ouais. Oui, on voit les matchs. Mais le truc, c'est qu'en dehors des matchs, il y a des séances d'entraînement. Il y a des préparations. D'accord? Moi, ce que je dis, et c'est un fait et on le voit tous, c'est que la préparation des joueurs au Paris Saint-Germain et la façon dont le Paris Saint-Germain prépare ses joueurs n'est pas la même qu'en équipe de France. Et moi, je pense que ces joueurs-là ont été mal préparés et que peut-être qu'il fallait peut-être faire des exercices un peu plus spécifiques avec certains joueurs, peut-être qu'il fallait plus s'éménager, parce que moi, je pense pas que ce soit dans le match en lui-même qui ait causé les blessures. Je pense qu'à mon avis, voilà, l'équipe de France, quand elle récupère les joueurs en sélection, elle fait ses séances et je pense qu'il y a certaines choses en fait qui n'ont pas été prises en compte.
Luc, j'aimerais juste avoir ton sentiment par rapport aussi à la gestion du PSG. Et Yann a commencé à l'évoquer. La saison a été très longue. On rappelle, il n'y a qu'un mois entre la finale de la Coupe du Monde de Club et la finale de Supercoupe face à Tottenham. Est-ce que pour toi, sachant que le PSG est ultra favori en Ligue 1, Luis Enrique aurait dû se passer sur les premiers matchs de ses joueurs majeurs? Parce que Dembélé, on le rappelle, il est remplaçant contre Nantes, mais il rentre. Et après, contre Angers et contre Toulouse, il est titulaire. Est-ce que toi, en tant que supporter, t'as été surpris que tes joueurs majeurs soient aussi rapidement mis dans le 11 de départ ou sur le terrain, alors que c'est la Ligue 1?
Non. Non. J'ai pas été surpris. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on connaît notre club, on connaît notre coach, et on a totale confiance en leur gestion des joueurs.
Mais tu connais aussi les dates. Tu connais les dates des matchs internationaux aussi. Tu sais qu'ils vont être sollicités à ce moment-là. Ça fait partie du jeu. Et heureusement d'ailleurs.
Non mais oui, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on envoie nos joueurs en équipe nationale, on envoie justement des recommandations à la sélection, justement pour faire attention sur certains points. Et moi je le redis, le PSG a joué beaucoup de matchs, vous venez de le dire, elle a joué beaucoup de matchs entre le mois de juin, entre le mois de mai et le mois de septembre et le mois d'août. C'est quasiment les mêmes joueurs qui ont joué. Est-ce qu'il y a eu des grosses blessures? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Non. Là, comme par hasard, ils vont en sélection une fois et ça casse.
Mais tu sais, les blessures, ça arrive pas tout le temps, même pendant la compétition. Des fois, ça tire sur la corde, c'est la fatigue, et à la reprise, c'est là où ça pète. C'est souvent ça. En fait, c'est le match de trop, souvent. C'est, quand tu es dans la compétition à fond, c'est pas tout le temps là où tu te pètes. C'est souvent après, c'est la saison d'après, souvent.
Ok, bah alors moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Si on prend ça en compte, comment se fait-il, parce qu'on a envoyé plein de joueurs en sélection, on n'a pas que Dembélé et Désiré Doué, comment se fait-il que les autres joueurs, eux, n'ont pas pété, sachant qu'on a des joueurs aussi qui ont énormément joué.
Comme Hakimi, notamment, qui a joué le premier match avec le Maroc.
Et vous allez voir, et je vous le dis, je vous le donne en mille, hein, vous verrez que dans les prochaines semaines, même les prochains mois, jusqu'au prochain rassemblement, les mêmes joueurs qui jouaient depuis le mois de janvier de cette année, ils vont continuer à jouer, ça va toujours tourner, et vous verrez qu'il n'y aura pas de blessés.
Mais Luc, on te le souhaite, et ouais, évidemment en tant que supporter du PSG, mais on rappelle que par exemple Kvara a été touché en début de saison et qu'il n'est pas international français, il est international géorgien, donc ce n'est pas que la faute de l'équipe de France, même si l'équipe de France pour le coup n'a pas écouté le PSG et n'a pas pris en compte ce courrier qui avait été envoyé. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous.
Merci.
Il y a beaucoup de réactions de supporters du PSG. Michael également est avec nous. Michael, supporter du PSG. Alors, on a entendu Luc qui en veut à la Fédération Française de Football. Pour lui, c'est vraiment cette sélection et nos médecins qui sont fautifs. Toi, est-ce que tu partages l'avis de Luc ou tu es un petit peu plus nuancé ?
Moi, je suis un petit peu plus nuancé. Je partage bien évidemment l'énervement de Luc, mais il faut pas oublier quand même que on a une Coupe du Monde à jouer à la fin de la saison, que on a peu de rassemblements en équipe de France, et que c'est vrai que chaque rassemblement c'est un moment pour faire jouer quand même et trouver un équilibre, trouver une organisation en attaque, former une équipe et être prêt pour cette Coupe du Monde. Maintenant, là où je suis un petit peu aussi énervé comme Luc, c'est que effectivement, je pense que l'équipe de France et Didier Deschamps en priorité connaît la saison que le Paris Saint-Germain a passée la saison dernière, et que honnêtement il a le choix. C'est pas que on jouait l'Ukraine, enfin c'était pas non plus un match où on était obligé d'aligner forcément le 11 type ou le 11 majeur, on va dire, et on a beaucoup de choix offensifs, et on aurait pu se passer, alors peut-être de Doué, peut-être le faire jouer, ok, mais Dembélé qui revenait de blessure il y a deux séjours à Toulouse, on le remet aujourd'hui en deuxième mi-temps, alors qu'il y avait d'autres choix, d'autres possibilités. Là, très franchement, je pense qu'il y a eu, je sais pas, soit une quelque chose contre le PSG ou quelque chose, une facilité. On n'avait pas envie de chercher autre chose, mais Deschamps a sa part de responsabilité. Et d'ailleurs, je l'ai vu ce matin sur
Téléfoot.
Il n'était pas non plus très très serein, je trouve, dans ses explications. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
On a passé à l'extrait il y a quelques secondes sur RMC. Après, Michael, il y a deux choses différentes. C'est vrai que Ousmane Dembélé, pour le coup, il était touché, donc il était forcément amoindri. Et on sait que quand il y a une blessure, souvent tu compenses. Donc quand tu t'es blessé, par exemple, à gauche, tu peux derrière péter à droite, c'est ce qui s'est passé. Les deux cas sont quand même différents. Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est fragile, qui s'est beaucoup blessé, qui s'était blessé aussi, on le rappelle, avant la Coupe du Monde des clubs en sélection nationale. Désiré Doué, c'est plus un peu le coup de pas de chance. Non, ça aurait pu lui arriver aussi avec le PSG, alors que pour le coup, Dembélé, il y avait une énorme alerte.
C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est que Désiré Doué, pour moi, ok, il peut jouer. Il n'est pas sujet justement à des blessures à répétition. On connaît la fragilité de Dembélé, c'est pas quelque chose de nouveau. On sait très bien que le Paris Saint-Germain a eu une saison très longue et très belle, mais qu'on va avoir des retombées de blessures dans la cour de la saison. Là, ça intervient à un très mauvais moment. On perd deux joueurs. Et c'est là où on peut se poser la question aussi, du coup, du recrutement du PSG, où on a eu pas du tout de précautions. Je veux dire, si demain on a Mendes qui se blesse avec le Portugal, Hakimi avec le Maroc.
Non, ça suffit le chat noir. Calme-toi, Mickaël.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Mais bien sûr, il y a de l'inquiétude parce que les corps sont éprouvés.
C'était bien de pas trop recruter. Je trouve que c'était une bonne initiative. Oui, mais on aurait quand même pu peut-être prendre un joueur, peut-être offensif en plus, pour pallier ce genre de situation ou en tout cas même un défensif, je pense aussi. Mais,
Tu vois, quand on sait que les joueurs ont tiré sur la corde, ils ont une saison hyper difficile, que physiquement il y a des fragilités tellement ils ont joué et tout ça. Moi, je privilégie toujours l'équipe de France, qui est notre hymne national quand même, au club. Malgré tout, pour moi, c'est hyper important. Alors, est-ce que c'est parce que je suis très rugby de dire ça ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour moi, le Graal, c'est quand même l'équipe de France. Je privilégie l'équipe de France. Moi, je comprends pas pourquoi ces mecs, et tu l'as dit, Karine, tout à l'heure, qui ont tiré sur la corde, pourquoi le club continue à les faire jouer en ce moment, dans ces périodes-là de début de championnat, sachant que le championnat, il sera gagné par le PSG, quoi qu'il arrive, à mon avis. Enfin, tout le monde est d'accord avec ça. On ne sait pas à quelle période avant la fin, mais généralement.
Oui, a priori, ils sont bien partis pour, hein, un nouveau titre de champion.
Voilà. Est-ce que tu as besoin de faire jouer tous ces mecs-là, sachant qu'il y a des échéances internationales importantes avec une qualification à la Coupe du Monde? Parce que moi, je veux bien tout ce que vous me dites, mais vous serez les premiers à reprocher à Deschamps si jamais on n'a pas les automatismes offensifs en Coupe du Monde. Si jamais, on ne sait jamais, on n'est pas qualifié parce qu'on n'a pas mis nos meilleurs joueurs pour les qualifications à la Coupe du Monde, alors on tapera sur Deschamps à ce moment-là. À un moment donné, lui, il doit gérer une sélection internationale, une sélection française. C'est normal qu'il appelle les meilleurs joueurs français. Maintenant, c'est au club de mettre de côté leurs joueurs s'ils sont fatigués. C'est mon point de vue de rugbyman basique.
Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été Merci avec Mickaël. Les supporters du PSG. On part tout de suite à New York. C'est une finale de rêve que l'on va vivre avec Eric Salio. Bonsoir, Eric.
Bonsoir.
Bonsoir, Karine. Bonsoir à tous.
Quel choc magnifique. Alcaraz d'un côté, Sinner de l'autre. Et on rappelle qu'ils se sont déjà affrontés 5 fois en finale cette année. C'est devenu un classique.
C'est un classico et vous l'avez noté, on a pris un peu de retard parce que si vous découvrez les images sur votre téléviseur, il y a encore des trous dans les tribunes. Pourquoi? Il y a des milliers de personnes, de spectateurs, qui sont bloqués à la sécurité puisqu'ils ont installé des portiques de sécurité hier soir dans la nuit parce que Donald Trump est là, donc ils auront tout renforcé. Et au moment où je vous parle, il y a encore des milliers de personnes qui sont bloquées dehors, mais bon, on pouvait plus faire attendre les télés du monde entier. Donc les deux joueurs sont sur le court et donc on attend des étincelles de cette rencontre. Il y a aussi la place de numéro 1 en jeu. Le gagnant sera numéro 1 mondial lundi et c'est Marat Safit qui va procéder au tirage au sort, le beau gosse Marat. Ça démarre sous les meilleurs auspices.
Marat Safin, que d'anecdotes.
Oui, je pense que tu étais un peu amoureuse de Marat Safin, n'est-ce pas?
Oui, c'est pas très original, hein, n'est-ce pas?
Non, c'est vrai. Ouais, t'étais pas la seule.
Ouais, j'étais pas la seule.
Il y avait de la concurrence.
Oui. Je l'ai déjà croisé en boîte de nuit et il était assez bien entouré, effectivement. J'avais pas ma place à la table. Bon, cette finale, en tout cas, elle s'annonce absolument exceptionnelle. Est-ce qu'elle va vraiment démarrer maintenant ou vu qu'il y a énormément de gens encore dehors, ils pourraient la décaler d'encore quelques minutes?
Ah non, ça y est, là c'est, les deux joueurs vont débuter leur échauffement, Karine. Photo avec Safin et les deux joueurs et un petit garçon qui a lancé la pièce. Donc, l'échauffement en 5 minutes, donc coup d'envoi dans 6 minutes, Karine, je te promets.
Parfait, on sera là avec toi pour vivre cette finale.
Et tant
finale.
Pis pour ceux qui sont dehors.
Et voilà. Les pauvres. Cette finale de l'US Open entre Alcaraz et Sinner. On est ensemble jusqu'à 23h sur RMC dans quelques instants. Le top 14 en intégralité. Dernier match de cette première journée. Clermont-Toulouse. Yann Delague est là. Nos commentateurs sont évidemment à Clermont. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Karine Galli.
23h et Yann Delague, notre membre de la Dream Team RMC Rugby. Dans quelques instants, on part au stade Marcel Michelin. On rappelle que Clermont affronte Toulouse en clôture de la première journée de Top 14. Quelques petites informations que vous retrouvez évidemment sur RMC Sport. Valentin Germain et Florent Germain, nos reporters, ont suivi la conférence de presse aujourd'hui d'Ekitike Ekone, mais rien de fou. Sinon, les Bleus, champions olympiques de Cécifoot au JO 2024 à Paris, étaient invités à Clairefontaine ce dimanche. L'entraînement est également ouvert au public. Et Yann, on a pu voir Véronique Rabiot, la maman d'Adrien. Oui. Et oui, elle est partout, elle était présente donc pour voir l'entraînement de son fils et comment est bien arrivé ce dimanche à Clairefontaine en provenance d'Arabie Saoudite. Et il a pu donc participer à l'entraînement collectif. Voilà pour les informations sur l'équipe de France à J-2 du match entre la France et l'Islande que vous suivrez en intégralité sur RMC mardi soir. On file tout de suite dans une ambiance de folie à Clermont. Il y a quelques minutes, il pleuvait, m'a dit Wilfried Templier et Damien Tardieu. Est-ce que l'ambiance monte? Est-ce que le soleil est revenu? Ou ça y est, l'ambiance est vraiment lourde, on est prêt pour un
choc. Karine, le soleil à ce temps-là, on va le chercher parce qu'il fait nuit.
Ça y est, Karine, ça y est, c'est la rentrée, c'est
non,
fini le soleil couchant
continue.
Le soir.
Mais non,
c'est la rentrée, ça y est, il fait nuit, mais il pleut plus. Ah. Je veux savoir, il pleut plus. Et le côté ambiance, Damien?
Ouais, c'est pas.
Ouais, mais Clermont est rentré sur le terrain, on a senti le soutien.
Ouais, on a senti le soutien. Alors, on va pas vous mentir non plus, c'est pas la grande folie pour l'instant. Mais effectivement, tout à l'heure, lorsque les joueurs sont sortis du couloir pour venir s'échauffer, on a eu les premiers SM qui sont tombés des tribunes du Michelin. Ça va monter crescendo.
Et puis, ce qui est génial, comme dans beaucoup de stades maintenant, parce que le merchandising en rugby marche beaucoup, eh bien, c'est jaune et bleu partout. Tout le monde a son maillot, évidemment. Donc, ils sont là, les jaunards.
Les supporters de l'ASM sont au rendez-vous. Messieurs, on va commencer de parler du club qui reçoit. C'est clairement l'ASM qui a fini 5e la saison passée, on l'a dit. C'est un petit peu l'année de la confirmation ce soir. Il faut déjà qu'ils montrent face à Toulouse, et ça ne sera pas facile. Hein. En face, c'est le triple champion de France en titre.
Oui, alors côté Clermont, tu disais l'année de la confirmation. Oui, parce que Clermont est revenu s'inviter à la table des phases finales. Ça lui était plus arrivé depuis 2021, donc 4 ans de disette pour Clermont, ça fait beaucoup quand même. Parce que quand on a connu les années 2010 avec Clermont qui allait très souvent en finale, qui perdait très souvent en finale, c'est vrai. Et il faut bien le dire.
Ils ont gagné aussi quand même.
Ils ont gagné. Ils ont gagné, mais bon, il y a notamment ces finales de Coupe d'Europe perdues contre Toulon qui restent en travers de la gorge des supporters clermontois. Bref, Clermont est revenu un peu dans le gotha l'année dernière avec une 5e place. Il y a eu cette fausse note avec ce barrage perdu à Bayonne avec 20 à 3 avec un non-match des Clermontois qui n'ont pas existé, qui se sont fait manger, et ça gâche un peu une fin de saison qui pourtant était sous les meilleurs auspices avec ce retour donc en phase finale. Quand on sait la bataille que c'est pour rentrer en phase finale, c'était une vraie performance pour Clermont. Donc l'objectif effectivement de cette saison, c'est Yann, et que Clermont s'installe, retourne en phase finale, c'est l'objectif affiché en tout cas.
Ouais, exactement. Et moi, Clermont, j'ai bien aimé l'année dernière. J'ai trouvé qu'ils donnaient beaucoup d'occasions d'essai. Alors par contre, ils finissaient pas leurs coups, ils finissaient pas les actions. Et j'en avais parlé à Urios en lui disant, mais c'est incroyable parce que ton équipe, je trouve qu'elle est très dominante sur beaucoup de matchs, mais ça gagne pas au final, quoi. Et ils ont réussi finalement à terminer cinquième, ce qui est pas mal. Mais c'est effectivement l'année de la confirmation par rapport à ça. S'ils arrivent à concrétiser leurs occasions, ça sera une équipe qui jouera le haut tableau.
Ouais, il marque quand même, Yann, il marque 85 essais l'année dernière. Ils sont troisième à ce niveau-là.
84 sur ballon porté.
On a discuté avec Damien, Yann. C'était beaucoup l'œuvre des avants, Christophe Ossemsa, sur ballon porté. Ils étaient quand même critiqués un peu, même par leur public, sur le contenu, hein, sur le volume de jeu.
Oui, mais sur la domination. En fait, ils avaient une domination assez importante dans les matchs, beaucoup plus que ce qui concrétisait, que ce qui marquait, quoi. Enfin, c'est un peu mon analyse que j'avais sur Clermont l'année dernière. Maintenant, la question que je me pose sur Clermont 2025-2026, c'est comment ils vont jouer, dans la mesure où il y a quand même des joueurs très importants qui sont partis, qui étaient quand même des joueurs d'expérience. Je pense à Urda Pileta, je pense à Yato, je pense à Fritz Lee, des joueurs comme ça, Bello aussi qui est parti.
Fischer
également, Fischer. Exactement. Et là, il y a des joueurs qui sont arrivés, il y a plein de joueurs qui sont arrivés aussi, qu'on connaît un petit peu moins. Et notamment, en charnière, il y a Plumeur qui est arrivé, qui est un joueur néo-zélandais. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Je sais que quand tu es numéro 10, il faut quand même bien maîtriser la langue de Molière pour pouvoir communiquer avec ses partenaires. Est-ce que ça va pas être un petit caillou dans la chaussure de cette équipe? Alors,
il a beaucoup travaillé effectivement, mais
il vient des Auckland Blues, hein. Il a remporté le Super Rugby avec les Auckland Blues. Généralement, Damien, Yann, le numéro 10 néo-zélandais a quand même certaines qualités. Mais ce qu'on en parlait aussi, Damien, c'est une saison de top 14, c'est pas une saison de Super Rugby dans la longueur.
C'est pas la même chose, la communication aussi avec ses partenaires, c'est ça aussi la difficulté. Parce que
Ouais. Ils ont beaucoup travaillé, notamment avec Baptiste Dionneau, qui sera son partenaire de la charnière. Les deux ont beaucoup échangé. Baptiste Dionneau est revenu tard, puisqu'il a participé évidemment à la tournée avec l'équipe de France. Donc, c'est vrai qu'il y a un laps de temps qui est court. On va pas s'enflammer si ce soir Harry Plumeur fait un match pas super. Bon, ben voilà, il faudra laisser le temps. On en parlait avec Wilfried également hors micro. On se souvient que l'un des plus grands numéro 10 de l'ASM, Brock James, quand il est arrivé, sa première saison avait été délicate. Il a fallu une bonne saison pour qu'il s'adapte. Mais c'est clairement un des points majeurs de la saison de Clermont, ce poste de numéro 10, parce que depuis le départ de Camille Lopez en 2022, me semble-t-il, Clermont n'a pas retrouvé de joueurs comme ça majeurs au poste de numéro 10 pour la gestion du jeu, pour la longueur du jeu au pied aussi. C'est quelque chose qui manquait, y compris dans l'animation. Donc on va voir Christophe Furios fonde beaucoup d'espoir sur Harry Plumeur.
Il vaut mieux parce qu'il n'y a pas non plus pléthore de joueurs en numéro 10 derrière, quoi. Il y a Rafi qui est arrivé, pareil, on sait pas jeune, plus, ouais. C'est un jeune joueur, ouais. Donc il n'y a pas de plan B, quoi.
Le point positif, ça n'a rien à voir, mais enfin, quoique c'est de la charnière, c'est la prolongation de Baptiste Jauneau. Damien l'a évoqué, capitaine de Clermont, international, champion du monde du vin, des clubs lorgnais sur Baptiste Jauneau.
Toulon notamment.
Toulon. Et Yann, ici c'était, Nurios nous l'avait dit, hein, la priorité des priorités, de le prolonger pour envoyer un signal pour la dynamique. C'est fait, on a verrouillé Baptiste Jauneau, 3 ans, 3 ou 4
2
ans.
2 ans plus une en option, voilà, 2028.
Très bon.
donc 2 ans de plus.
C'est un point très positif pour l'ASM, d'autant que on veut faire la même chose avec Kylian Tixeron en troisième ligne, qui est vice-capitaine de l'équipe. Ouais.
Christophe Furios, oui, parle donc de Baptiste Giono, évidemment. C'est la pierre angulaire, clairement. Il porte plus en fait que son simple rôle de demi de mêlée. C'est ce que ça renvoie aussi comme image de pouvoir garder un joueur comme
oui.
ça.
Christophe Furios aime bien ça. Sur les 9, il est là-dessus.
Exactement.
Cornaquer les avant, être le leader du club.
Tu l'as dit également avec Kylian Tixeron. Et puis il y a un autre joueur sur lequel il compte s'appuyer. Ils sont l'avenir de l'ASM. Il le répète quasiment à chaque conférence de presse. Christophe Furios, c'est Barnabé Massa, le talonneur, jeune joueur arrivé de Grenoble qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Donc voilà, clairement compte s'appuyer sur ces joueurs-là. Tu le disais, Yann également, il n'y a pas 50 000 solutions en numéro 10 derrière. La preuve ce soir, c'est un jeune de 18 ans, argentin, Juan Montilla, qui va faire sa première feuille de match. Il a été bluffant a priori, notamment dans le caractère. Les Argentins, et Christophe Furios aime ça également. Et il va être sur le banc, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas énormément de solutions en numéro 10. Ça sera Iraé Simone qui a joué centre l'année dernière, qui sera la doublure au poste de numéro 10. Qui est
mais voilà, c'est un bébé hors d'appui d'État pour Christophe Furios. Hors d'appui d'État, la suivi de Oyonnax, à Castres, à Clermont.
Ça peut devenir ça. Il aime bien sa grinta, en tout cas, il l'a beaucoup vendu ces dernières heures.
Messieurs, on a présenté cette nouvelle charnière, hein. On attend beaucoup d'elle. On va parler de Toulouse maintenant. Du côté de Toulouse, c'est un peu comme l'UBB, préparation estivale très courte pour les joueurs du Gomola. Ça peut jouer ce soir pour ce premier match. Un manque de rythme est à craindre.
Mise en route pour Toulouse, les derniers à reprendre 6 semaines de vacances, ils ont eu les Toulousains. Avec une saison harassante, évidemment, on va jusqu'en finale. Hugo Mola et son staff voulaient vraiment que tout le monde déconnecte. 6 semaines de vacances, reprise le 11 août. 2 matchs amicaux, une défaite à Vannes avec beaucoup de jeunes, une victoire à Bayonne. Et puis, bon, ça reste le Stade Toulousain parce que quand je vous dis ce soir qu'il manque Teddy Thomas, qu'il manque Colombe, les deux recrues venues de La Rochelle, qu'il manque Movaca, Capozzo, Dupont, ça fait pas mal, c'est pas mal de monde d'ailleurs. Capozzo qui a eu un heureux événement. On le félicite donc il y a encore Paul Coste, Willis, Aynou qui sont pas là,
Malia Chocobares
qui sont en sélection, Yann, mais c'est pas grave à Toulouse vu la profondeur de l'effectif. Si je te dis qu'il y a quand même des Aldeguerri, des Flamands, Meafou, Gelon, ouais. Chentamac, Barassi, Ramos, Lebel et les autres sont là. C'est la force, Yann, de Toulouse qui a pas que des grands joueurs, c'est pas ce que je veux dire, Yann, mais qui a beaucoup de jeunes qui sont là, qui gagnent des matchs aussi quand ils sont
là. Mais je t'entendais citer tous les noms qui étaient absents, je disais mais ils vont jouer avec qui, puis finalement t'as raison. Tous ceux qui sont sur le terrain, ils sont quand même énormes. Et d'ailleurs effectivement, dans le 15 de départ, il n'y a pas une seule recrue, c'est que des joueurs qui jouent habituellement avec le stade. Donc le Toulouse, on les présente plus, hein, énorme équipe. Alors effectivement, ils sont peut-être un peu moins bien préparés que les autres. Mais en même temps, ils connaissent leur rugby, ils connaissent leur jeu, ils sont hyper efficaces. Donc, de toute façon, Toulouse est un grand danger pour tous les adversaires qui les rencontrent. Donc, voilà, ils ont des certitudes, ils ont plein de certitudes. Donc, ça va être difficile pour Clermont, évidemment. Mais vaut mieux jouer Toulouse maintenant qu'après, quand même, à mon avis.
Ouais, premier du top 14 ces 2 dernières années. Meilleure attaque, meilleure défense l'année dernière. Je regardais sur leur performance à l'extérieur. Faut pas regarder le nombre de matchs qu'ils ont gagnés, Yann, à l'extérieur l'année dernière. Faut regarder le nombre de matchs qu'ils ont perdus. Parce qu'il n'y en a eu que 5. Castres, Bayonne, La Rochelle, UBB, USAP. Mais avec 3 bonus défensifs, il n'y a que 2 fois où Toulouse n'a rien ramené à l'extérieur. À l'UBB, à sortie de tournoi, et à Perpignan, c'était la dernière journée où ils avaient fait tourner. Donc Toulouse est une machine à gagner à domicile, à l'extérieur. Et voilà, l'ASM aura une grande mission ce soir, d'autant, Karine, Yann, Damien, que les 3 dernières saisons ont été douloureuses ici au Michelin pour les Clermontois. 35-18, 37-33, 31-13, 32-13, avec souvent dans les doublons des équipes avec des jeunes. Donc c'est pas grave, ils se balancent le ballon sur la tête et à la fin ça fait souvent essai. Donc voilà, Clermont doit arrêter, stopper l'hémorragie, stopper l'hégémonie toulousaine ici à Marcel Michelin.
Messieurs, vous avez parlé des nombreux absents du côté de Toulouse. Il y a un homme qui revient sans cesse, c'est évidemment Antoine Dupont. Hugo Mola a été interrogé. Où est-ce qu'il en est, notre star absolue Antoine Dupont? On l'écoute.
Il ne faut pas interpréter des choses qui vous paraissent comme un lot commun et de ne pas tomber dans le Dupont bashing parce qu'il a la chance de pouvoir vivre des choses qu'il n'a pas le temps en tant que rugbyman professionnel dans un club parce qu'il est blessé et que les week-ends lui sont offerts. Ensuite, on a un mode de fonctionnement qui fait que dès l'instant qu'un joueur est blessé de plus de 6 à 8 semaines, une partie de sa rééducation ou une partie de sa réathlétisation ne se fait pas au club. Donc on s'est organisé aussi en conséquence pour que nos joueurs puissent aller déjà chercher des compétences ailleurs. Ne vous inquiétez pas, Antoine est souvent avec nous, il est là, il va partir. Donc avant que vous le voyez sur les réseaux sociaux, il va partir dans 2 centres de rééducation à l'étranger.
Wilfried, ouais. Dis-nous tout. Antoine Dupont, oui, alors, c'est devenu voilà. une star. Ce n'est plus un joueur de rugby. En tout cas, ce n'est plus que ça. Ma maman sait qui est Antoine Dupont parce qu'il est partout. C'est voilà un homme qu'on a
Roland
vu au
Garros, festival.
Festival
de Cannes.
Voilà, là, on l'a vu à un match de foot à Côme. Est-ce qu'on a peur ? Parce que dans le monde du rugby, quand même, c'est quelque chose de nouveau. Là, Antoine Dupont, ce n'est plus qu'un rugbyman.
Ouais, alors les coulisses un petit peu de cette réponse d'Hugo Mola, c'était une question d'un confrère qui disait, alors on a vu Antoine Dupont et Ernest Vallon, il travaille, il est là et je pense qu'il voulait en parler Hugo Mola, il s'engouffrait dans la brèche, il a parlé de Dupont bashing. À un moment, moi je l'ai après sa réponse, je lui ai dit mais parce que j'ai pas calculé, il y a du Dupont bashing. Bon en fait voilà, dès qu'on est sur les réseaux sociaux,
c'est à toi qui l'a dit mais t'étais en vacances.
Ouais, c'est moi.
D'accord.
Il m'a dit ouais toi t'es bronzé, t'étais en vacances, t'as pas suivi ça. Non mais parce que je me disais qu'est-ce que c'est ça, Dupont bashing, c'est l'idole du rugby français, beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est? Bon évidemment les haters sur les réseaux sociaux qui disent voilà il est ici, il est là. Ne vous inquiétez pas pour Antoine Dupont. En fait il est focus, il sait ce qu'il a à faire pour revenir à son niveau. Il va revenir à son meilleur niveau, il va redevenir le joueur qu'il était. Bon, moi, ça m'avait, Yann, je sais pas, moi, ça m'avait échappé le Dupont bashing. Donc voilà,
ouais,
moi
aussi, mais j'imagine bien qu'il a dû lire quelques trucs qui disaient que.
Voilà,
Dupont
il avait quelque chose à dire, Hugo Mola, là-dessus.
Festival de Cannes, tu as plutôt de s'occuper de son genou. C'est humain, oui. Certainement qu'il a dû entendre quelques raisonnements comme
mais,
ça.
Mais il bosse terriblement, tu sais, Yann, c'est un fou de boulot et il va revenir à son niveau et il est là, il l'a dit, il va aller dans deux centres à l'étranger, on va chercher où c'est, évidemment. On va être dans ses valises pour savoir où c'est. On se demandait s'il pouvait aller au Qatar, vous voyez, comme les joueurs du PSG l'ont fait. C'est pas une info, hein, c'était un questionnement qu'on avait.
États-Unis
peut-être.
À
l'info,
Yann.
Il y a des infos,
mais je peux pas en parler. T'en as trop dit.
Il a passé pas mal de temps aux États-Unis il y a quelques mois, donc je me suis dit c'est pas impossible qu'il aille là-bas.
Oui, mais alors pour te dire, il allait dans le monde entier.
Oui, c'est vrai, remarque.
Parce que si on suit un petit peu son parcours, il peut chercher des partout.
Karine, il profite de voilà sa rééducation aussi, de son temps libre pour faire plein de choses en fait. Et c'est quand même génial. C'est vrai que le rugby est pas habitué à ça, forcément, de le voir à Roland Garros. Mais c'est très bien.
À Saint-Tropez, Antoine Dupont.
Mais oui, mais ça, est-ce que ça va vous empêcher de dormir? Moi non. Et c'est plutôt génial, hein, qui diront Dupont par-ci, Dupont par-là. Profitons d'Antoine Dupont. On n'a jamais eu un joueur peut-être comme ça, je pense. On n'aura peut-être jamais vu nos vieux âges pour certains.
Je ne cite personne.
On reverra peut-être pas un phénomène comme ça, et il reviendra. Et c'est important parce que dans deux ans, il y a un tournoi dans cet hiver avec une possibilité de grand chelem avec trois matchs à domicile. Et surtout, vous le savez très bien, dans deux ans, il y a une Coupe du Monde en Australie. On a eu un loupé en France avec une élimination en quart de finale. Voilà, si on veut aller chercher un premier titre de champion du monde, ce serait bien. Et on l'aura, qu'on ait un Antoine Dupont pour nous guider.
Et on lui souhaite évidemment le meilleur à Antoine Dupont. Et on a hâte de le revoir sur une pelouse de rugby.
On va prendre pour Dupont-Moretti un peu, pour l'avocat d'Antoine Dupont.
Alors, vraiment, franchement,
on aime les beaux joueurs et voilà. C'est un joueur à sensation, un joueur frisson.
Ouais, je suis allé voir le spectacle d'Éric Dupont-Moretti cet été, j'étais très déçu.
Donc tu vois,
Tu fais des choses. Hein. Tu vas en boîte avec Marat Safin, tu vas au spectacle de Dupont-Moretti,
tu vas au stade Gabriel Montpied.
C'est toi qui as une vie un peu dissolue, contrairement.
J'ai été dans la même boîte que Marat Safin. Ne faisons pas rêver les gens pour rien. Je n'étais pas avec lui à sa table. Voilà, c'est juste. Nous étions à quelques mètres.
T'es resté à l'entrée, le videur t'a dit non, tu rentres pas.
Ah non, là pour le coup, je suis rentré, c'est mon sujet. Quand même, c'est
entré quand même, garçon.
Mais j'étais pas invité à sa table, ça c'est sûr. Il y avait un manque de niveau. Messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de Clermont-Toulouse. On retourne justement à l'US Open. Eric Salio, est-ce qu'il y a du niveau sur cette
affiche? Il y a du haut niveau déjà. Il n'y a pas de round d'observation et ça tourne à l'avantage de Carlos Alcaraz qui a déjà un break d'avance puisqu'il mène 2-0. Il a piqué le service de l'Italien sur le premier jeu, l'Italien qui n'était peut-être pas encore chaud. Et derrière, il vient de remporter son jeu assez facilement avec quelques coups sortis de son imagination. 2-0 donc pour Carlos Alcaraz après 13 minutes de jeu.
Et oui, le premier jeu était très long, il me semble.
Ça promet.
Et il a l'air de faire très lourd hein, parce qu'Alcaraz a déjà.
On joue en indoor, hein, je ne l'ai pas dit, hein, bien sûr, hein, puisqu'il ne fait pas beau à New York.
Encore,
aujourd'hui,
décidément.
La fin de tournoi est pénible. J'ai rangé mon Bermuda.
C'est dommage. Pourtant, le mois de septembre est très agréable, normalement, à New York. Mais là,
je vois que tu connais beaucoup de choses partout. Hein, on va avoir plein d'infos exclusives. Attention, Karine. Je te dévoile un peu trop, je trouve.
Je parlais météo, écoute Eric. Bon, en tout cas, on suit avec toi cette finale entre Sinner et Alcaraz. On est ensemble sur RMC jusqu'à 23h. Coup d'envoi de ce choc de top 14 qui clôture la première journée. Le Clermont de Christophe Furios face à Toulouse. C'est dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'After Live.